Carrefour des Arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christelle.
Imaginaire de l'Arioste, l'Arioste imaginé. C'est sous ce titre que le musée du Louvre nous offre une exposition sur l'univers et l'œuvre de ce grand poète-conteur du XVIe siècle à la cour d'Est à Ferrare. C'est notamment son chef-d'œuvre, le fameux Roland Furieux, qui a inspiré les artistes de tous les temps, particulièrement de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Cette exposition est le cœur d'une riche programmation que le Louvre a organisée en ce printemps 2009 autour de l'Arioste. Des conférences, un colloque, des concerts et des projections d'opéras filmées sur Orlando Furioso et l'intégrale du célèbre poème lu par de grands acteurs en français et en italien. Ces multiples manifestations sur l'Arioste et les arts nous font véritablement pénétrer dans l'univers foisonnant de son œuvre et de sa fortune artistique. Canal Académie se réjouit de pouvoir recevoir dans ses studios les deux commissaires de cette exposition, Monica Preti-Amar et Dominique Cordelier. Madame Preti-Amar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de la peinture italienne du XVIIe siècle et responsable de la programmation en histoire de l'art à l'Auditorium du Louvre. Bien. Et Monsieur Cordelier, bonjour.
Bonjour.
Vous assurez le co-commissariat de cette exposition avec Madame Preti-Amar et vous êtes conservateur en chef au département des arts graphiques du Louvre.
Oui.
Ma première question sera tout simplement, pourquoi l'Arioste maintenant? Quelle place ou quelle importance peut avoir l'œuvre de l'écrivain du XVIe siècle, Ludovico Ariosto, dit l'Arioste, en 2009? Et aussi, pourquoi au Louvre? Madame Preti-Amar, peut-être?
Je commencerai à répondre à la deuxième question, pourquoi l'Arioste au Louvre? La programmation l'Arioste et les arts, il entend poursuivre une réflexion engagée par les musées du Louvre sur les grandes œuvres littéraires qui ont influencé les arts, et notamment les arts visuels. Dans les passés, d'autres programmations ont été consacrées aux métamorphoses d'Ovide, à la Divine Comédie de Dante, ou encore à la Jérusalem délivrée du Tasse. Et maintenant, l'Arioste. L'Arioste et le Roland Furieux, source inépuisable d'inspiration pour les artistes, c'est dont témoignent notamment les collections du Louvre. Et parmi les œuvres remarquables inspirées par l'Arioste au musée du Louvre, nous pouvons citer le tableau Angélique et Médor de Toussaint Dubreuil, un artiste de la seconde école de Fontainebleau que Dominique Cordelier connaît très bien, ou encore le petit bronze Angélique et Médor de Tacca, donc un bronziste sculpteur italien, ou le très célèbre tableau d'Ingres que vous connaissez tout le monde, le Roger délivrant Angélique, qui est
bien
présenté
emblématique. Oui.
Voilà, emblématique. Et je cite une dernière œuvre, la statue du Seigneur, qui représente le Roland Furieux, qui est un manifeste de la sculpture romantique, actuellement exposé dans la cour Puget. Donc j'invite les auditeurs à aller voir cette œuvre. Par ailleurs, je dirais aucun anniversaire ou célébration spécifique a motivé le choix de l'Arioste, si ce n'est l'édition récente, l'édition critique d'Edilizio Princeps, la première édition du Roland Furieux, publiée en 1516, et dont donc Marco Dorigatti a publié tout récemment chez Olski à Florence l'édition critique, un travail philologique remarquable qui a provoqué un nouvel essor d'études autour de l'Arioste dont a bénéficié le musée du Louvre. Et je voudrais dire aussi que cette programmation a été réalisée en collaboration avec deux instituts, l'Istituto di Studi Rinascimentali de Ferrare et le laboratoire TRAM de l'Université d'Amiens.
Oui.
Ça, c'est pour dire les choses, j'allais dire, à la fois du point de vue du musée et du point de vue de l'érudition. Mais dans votre question, j'entendais autre chose.
Oui, Dominique Cordelier, oui.
J'entendais autre chose qui est de savoir, effectivement, et qui peut paraître énigmatique, quelle est l'actualité d'un poète, disons, de la génération de Michel-Ange, hein,
oui,
grosso
oui.
modo, c'est son contemporain, même s'il a vécu un peu moins longtemps. Quelle est l'actualité d'un poème qui compte 40 000 vers, qui a un pied dans l'espace chevaleresque au départ, qui a un pied dans l'épopée au passage, qui a un pied dans l'histoire par ailleurs, qui est un chef-d'œuvre du discontinu, du coq à l'âne, du suspens, des emboîtements de narration, qui est un monument de digression, avec des afflux de personnages qui défient la mémoire, avec des changements de ton, qui est totalement dans une esthétique de la variété. Effectivement, la question se pose, quelle est l'actualité de ce poème? Est-ce qu'on est de plein pied avec ce texte? Et au fond, et c'est ce qui paraissait évident quand on écoutait Michel Jeanneret, qui a été un extraordinaire compagnon pour inventer cette exposition, puisqu'il nous a donné le fruit de sa réflexion et un grand texte pour le catalogue. C'était absolument admirable de voir comment cet homme, le plus cultivé, le plus littéraire des esprits qu'on ait pu fréquenter dernièrement au Louvre, avait trouvé que l'image, le dessin, la peinture, la sculpture, était un des meilleurs truchements pour aujourd'hui, vers ce texte. Donc il y a une actualité de l'Arioste à travers sa représentation. Alors sa représentation musicale, c'est une évidence.
Oui, oui, absolument. Bon. Il y a
mais aussi,
énormément de compositeurs qui se sont inspirés du Roland Furieux. Oui,
oui énormément. Oui. Hein, je veux dire,
surtout au XIXe siècle, mais même déjà avant. Bien avant,
parce qu'en fait, très tôt, il y a Jacopo Peri, par exemple, pour les Médicis, et Francesco Caccini s'attachent à ce texte, le font passer. Un peu plus tard, et ce n'est pas étonnant, c'est un Italien en France qui le fait, c'est Lully, avec son Roland, une grande tragédie lyrique des années 1680. Et puis, alors, toujours dans le mouvement, 1717, Scarlatti, suivi très vite, par 10 ans plus tard, par Vivaldi, avec l'Orlando Furioso, qui est peut-être le plus bel opéra sur la question. Et puis, alors Vivaldi, bien sûr, et Handel.
Handel. Tout à l'heure, on va peut-être trouver un extrait.
Oui. Donc Handel qui, coup sur coup, 3 ans de suite, 1733, 1734, 1735, Orlando, Ariodante, Alcina. Moi, je dis ça pour la fortune du texte, parce qu'avant de parler peut-être de la façon dont ce texte a imprégné les œuvres dont Monica Preti pourra parler, puisqu'elle les a vraiment choisies au cœur des collections du Louvre, c'est essayer de comprendre suivant quelle vague, finalement, ce texte a pris possession de l'Europe. Orlando Furioso est un sujet européen, encore plus qu'italien.
Il à l'origine, pas... même français. Il était plus chanté par les chanteurs de gestes en France, avant de passer, si j'ai bien compris, dans le patrimoine italien,
Le personnage de Roland, pas l'Orlando Furioso.
Oui,
pas son
la chanson de Roland.
On ne chantait pas en France la folie de Roland. Oui. On chantait un personnage complètement différent, qui était un paladin de Charlemagne, d'une chasteté décourageante. Et avec l'Italie, avec Boiardo d'abord, puis tout de suite après avec l'Arioste, ce paladin vertueux va devenir un paladin amoureux. Et amoureux jusqu'à la folie.
Oui, et ensuite, fou furieux. Et donc, effectivement, voilà un autre trait de la modernité de ce poème qui a été remarqué par Italo Calvino dans un essai remarquable d'une grande intelligence qui existe aussi en français. Et la folie qui est au centre de ce poème est d'une extraordinaire modernité. On peut parler encore cette réflexion sur la condition humaine, comme la folie, comme enseignait d'ailleurs Erasme, dans son éloge de la folie, est vraiment la marque de la condition humaine, l'éloge de la folie qui a été écrit en 1509, donc tout près du Roland Furieux, et que certainement l'Arioste avait lu. Et en effet, les fuites, les batailles, les aventures merveilleuses du Roland Furieux, qui se passent d'ailleurs dans des immenses espaces géographiques et narratifs, indiquent les parcours d'une quête, d'un désir jamais assouvi. C'est une quête qui a une dimension anthropologique, pourrait-on dire. C'est la recherche de la connaissance de soi-même, une recherche essentielle et en même temps illusoire. On n'arrive jamais véritablement connaître la nature humaine. Et je dirais que cette dimension de recherche, cet espace de la folie, de la fantaisie, est une dimension qui peut encore parler aujourd'hui.
Je crois absolument. Quand je pense par exemple à cette histoire de Renaud et Genève, c'est d'une complexité psychologique absolument extravagante.
Voilà. Et vous dites bien aussi
presque
cette dimension.
Presque frôlant la perversité des sentiments. Je ne sais pas si... si vous êtes d'accord. Mais comme nous avons tout à l'heure parlé de cette fameuse furie, enfin de Orlando Furioso par rapport à Orlando amoureux, si vous permettez, je vais lire quelques lignes qui sont signées par vous, Monica Preti-Amar. au sujet des figures de femmes, parce que ça touche vraiment exactement ce thème. Vous dites que la Fourie de Roland est une folie d'amour. Il perd l'esprit lorsqu'il découvre la passion d'Angélique pour Médor, simple soldat sarrasin. Cette dérision de l'idéal chevaleresque est aussi une démonstration éclatante de la vanité des actions humaines. Les rapports de l'homme et de la femme avec toutes les illusions, les diversions, les tromperies et les délices forment la trame de la plupart des intrigues, divagations, poursuites et vicissitudes du poème. Je crois que là, vous résumez parfaitement oui, tout le Roland Furieux.
Une partie du Roland Furieux.
Et puis donc, revenons à l'exposition, si vous voulez bien. Toutes les œuvres présentées dans cette exposition, donc au Louvre, autour du Roland Furieux, sont vraiment une invitation au voyage dans le fantastique, comme nous venons d'ailleurs de le comprendre suite à vos explications. Et un témoignage magistral, on peut dire, de la liberté d'invention de ces artistes depuis Antonio Pisanello, déjà du 15e siècle, c'est-à-dire avant l'Arioste, jusqu'à Delacroix ou Ingres. Et on y sent vraiment, ce que vous venez bien de décrire, une parfaite profonde connaissance de la condition de la nature humaine, et une force poétique et puis finalement aussi un charme immense qui se dégage de ce Roland Furieux. Donc rien d'étonnant à ce que cette œuvre, dès sa première édition, en 1516, je crois.
Oui, enfin, 1516, c'est vraiment le premier noyau du poème. Et l'Arioste va faire gonfler son poème de l'intérieur. Il va s'en rompre, ce qui est d'ailleurs un tour de force poétique, s'en rompre l'architecture de la construction. Il va intercaler des épisodes, des chants, remettre des choses, changer un peu l'angle d'approche qu'il a par rapport à ses protecteurs. Il ne faut jamais oublier que c'est quand même un poète de cour qui travaille pour Hippolyte d'Este d'abord, qui a ensuite un peu des déceptions de cour, comme tous les gens de cour d'ailleurs, il y a toujours des revers de fortune, et qui modifie un peu son angle d'attaque aussi parce que lui-même est pris dans une histoire amoureuse qui teinte le poème en profondeur. Et en gros, l'édition que nous pourrions appeler l'édition définitive, c'est 1532.
Ah oui, donc il y a eu quand même une bonne quinzaine, presque 20 ans entre les deux de développement.
Oui, et quand en 1516 ça paraît, il n'y travaille pas depuis deux jours.
Oui, bien sûr. Oui,
absolument. Si on peut dire que c'est l'œuvre d'une vie. Et d'ailleurs, la dernière édition, 1532, une année avant la mort de l'Arioste en 1533.
Oui, oui. Est-ce qu'on peut peut-être maintenant rappeler pour nos auditeurs, au moins dans les grandes lignes, les principaux récits, parce qu'il y a vraiment une complexité à souhait, même si l'Arioste annonce d'emblée les deux thèmes principaux de son poème, les armes et l'amour. Mais nous savons quand même qu'il n'y a pas qu'une seule histoire, mais de multiples aventures qui s'enchevêtrent entre plusieurs mondes et beaucoup de personnages. Et les protagonistes survolent la terre et le ciel comme une chevauchée fantastique. Et en plus, c'est écrit donc dans une langue vraiment grandiose et comme un chant vibrant qui vous soulève, n'est-ce pas ? Alors Monica Preti-Amar, vous voulez peut-être commencer, ou Dominique Cordelier ?
Oh, je peux dire deux mots. Vous avez rappelé qu'il se proposait comme programme deux termes. Je crois que vous avez dit les armes et les amours. En fait, il y en a quatre, les dames et les chevaliers. Ce qui n'est pas la même chose, on passe des objets aux personnes. Et les personnes, finalement, vont créer cette histoire. Alors le thème, en gros, c'est un poème qui raconte une guerre entre chrétiens et sarrasins. Des sarrasins qu'il ne faut pas assimiler dans notre imaginaire au monde musulman d'aujourd'hui. Il n'y a pas de déséquilibre, il y a une parité d'estime entre le monde chrétien et le monde de sarrasin sous la plume de l'Arioste. Ça n'est pas un heurt de civilisation brutale qui provoquerait des états d'âme compliqués. D'un côté, vous avez un roi Agramant, un roi africain qui est allié à Rodomont, qui est lui roi d'Alger, et ils vont combattre les chevaliers de Charlemagne, qui est par excellence l'empereur chrétien. Et les meilleurs chevaliers de Charlemagne sont, alors il y en a deux très importants, je ne cite que ceux-là, il y en a plein d'autres, Orlando, Roland pour nous, et Rinaldo. Mais en fait, ces chevaliers, et c'est là qu'il y a quelque chose qui va introduire toute la saveur du poème, ces chevaliers, notamment Orlando et Rinaldo, sont perturbés en quelque sorte, parce qu'ils se disputent l'amour d'Angélique. Alors, Angélique, qui c'est ? Alors, c'est vraiment la princesse venue d'ailleurs. Elle vient de l'extrême-orient, quelque part. Ça veut dire quelque part entre l'Inde et la Chine. C'est une beauté extrême-orientale qui fait perdre la tête à tous ces messieurs, de quelque camp qu'ils soient, d'ailleurs. Alors, les chevaliers amoureux ou fuyant l'amour par sortilège, parce qu'il y a des retournements de cet ordre, il suffit de boire à la mauvaise fontaine et tout d'un coup l'amour qu'on avait s'en va et arrivent des répulsions inattendues. Tous ces chevaliers amoureux oublient totalement leurs devoirs, rencontrent, alors ça c'est le vieux thème finalement qui vient de ce qu'on appelle de la matière de Bretagne, donc qui vient plutôt des romans de la table ronde. Ils vont rencontrer des aventures, ils vont commettre des exploits, quelquefois un peu à leur insu, plus ou moins volontaires en général, et toujours en marge de cette guerre qui traverse tout le poème, entre les Sarrasins et les chrétiens. Alors c'est une guerre qui passe par l'Espagne, qui touche Paris, au champ 31, on est au pied de l'Institut.
Alors qu'au XVIe siècle, ce n'était même pas de la réalité historique.
Ah, bien sûr que non, on a décollé littéralement.
On est complètement dans l'imaginaire, dans les légendes. Oui.
Et puis, au bout d'un certain nombre de revers, les Sarrasins descendent vers Arles, et puis tout à fait, alors si on raconte cet aspect uniquement guerrier du poème, Agramant l'Africain est finalement tué en duel par Orlando, et Rodomont, le roi d'Alger, est tué par Roger.
Ah oui, il y a encore Roger, oui.
Qui n'est pas n'importe qui est un chevalier retourné en quelque sorte.
C'est un chevalier païen converti par amour de Bradamante. Et on racontera aussi peut-être, c'est un autre récit, les amours de Bradamante et de Roger. Amour
l'Amazone.
L'Amazone chrétienne, oui. Et le chevalier païen converti qui, après de nombreuses aventures, obstacles qui se superposent, arrive à se marier. Un fin de poème. Et là, c'est juste aussi le thème encomiastique de ce poème qui est dédié au prince d'Est. Et Roger et Bradamante seraient pour l'Arioste les illustres fondateurs de la maison d'Est.
Fondateurs de la maison d'Est, selon une vieille technique de justification généalogique des princes occidentaux. Ce qui est très chic, c'est d'être descendant d'un prince troyen. C'est ce qui vous pose le mieux dans la vie au XVIe siècle.
Et c'est bien le cas pour
Tout simplement parce qu'on est dominé par le modèle de l'Énéide. Oui. Donc, aîné, descendant troyen, fondateur de Rome. Donc, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus légitime que ça. Et Roger, à travers son ascendance sarrasine, remonte aux Troyens. Exactement comme un peu plus tard, chez Ronsard, quand il écrit la Franciade, Francus est un descendant des Troyens. Et Francus est l'ancêtre de Charles IX. Enfin, bon,
et c'était particulier au Est, à Ferrare, ou est-ce que c'était la même mode, disons, chez les Médicis, par exemple?
Alors, les Médicis ne trouvent pas leur légitimité exactement selon les mêmes voies. D'abord parce qu'ils ne sont pas issus d'un milieu aristocratique, ils viennent de l'oligarchie marchande, et qu'ils arrivent plus tard, j'allais dire, dans le champ du pouvoir, à un moment où ces fables opèrent moins. Une des grandes déceptions de l'Arioste, il faut quand même le dire, c'est de ne pas avoir pu se transférer de la Ferrare des Est à la Florence des Médicis pour avoir une meilleure protection. Mais ce qui est amusant, c'est que la musique, justement, dont on parlait tout à l'heure, lui apporte une revanche. C'est par la musique qu'il va être sacré poète de Florence, en quelque sorte. Oui. Les Médicis n'ont pas cherché ce type de justification, quoique dans certains décors du XVIIe siècle, au Palais Pitti, on voit tout d'un coup ressurgir, un peu comme par nostalgie, quelque chose qui serait de l'ordre de la justification de la souveraineté des Médicis, pas exactement de leur généalogie, mais de leur souveraineté, qui viendrait quelque part du poème de l'Arioste. C'était une des belles communications du colloque que nous avons eu au Louvre.
Absolument, et c'était donc les fresques de Furini au palais Pitti, et une lecture très séduisante de ces fresques qui s'inspirent ou évoquent les grands poèmes de l'Arioste à la faveur des Médicis.
L'Arioste reste un formidable instrument de pouvoir ou de justification du pouvoir, par exemple. Et là aussi, on a eu la chance d'avoir une très belle communication de Pascal Torres durant le colloque. Par exemple, quand Louis XIV, en quelque sorte, inaugure Versailles avec les plaisirs de l'île enchantée, le programme des festivités qui instituent Versailles comme lieu de la souveraineté, c'est tiré de l'Arioste.
Ah oui. Avec une de ces aventures ou avec
plusieurs récits. Aventures qui s'emboîtent sur 3 jours
et qui donnent lieu à des mises en scène, à des fêtes, spectacles.
À des joutes, à des fêtes, à des spectacles, à une sorte de mythologie en acte.
Ah oui.
Mais qui est une mythologie non pas antique, mais une mythologie de l'Arioste.
Ah oui.
Alors, pourquoi ce succès-là? Alors, c'est l'autre aspect de l'histoire qui a peut-être, inspiré cette passion pour l'Arioste. C'est que ce Roland-là, cet Orlando, c'est un Orlando que, que l'Arioste recueille dans un texte qui l'a précédé de peu, l'Orlando innamorato de Boiardo.
De Boiardo.
Bon. très beau poème. Non, beau poème, un peu sous-évalué parce que n'appartenant pas à la langue italienne classique, mais qui a une très forte consistance. Avec ce coup de génie de Boiardo qui fait d'Orlando un personnage, un paladin amoureux. Et ça, c'est très important. Il faut toujours se souvenir que l'Arioste poursuit, en fait, le programme qu'a fixé Boiardo dans l'Orlando Innamorato. Alors, Boiardo avait fait de Roland un paladin épris d'Angélique. Et dans le poème de l'Arioste, Orlando, qui est un personnage aussi passionné que vaillant, est totalement, c'est le personnage désorienté, le chevalier déboussolé par excellence. Et c'est une figure de l'obsession, de la vaillance, mais de l'obsession en même temps. Et il va errer à l'aventure, à la recherche d'Angélique, commettant cet acte totalement étrange d'un point de vue strictement chevaleresque, qui est de déserter son propre camp pour suivre ses passions. Quelque chose qui parle très fort au XVIIe siècle, la question des passions. Et au passage, c'est l'occasion pour lui d'accomplir des exploits. Et des exploits incroyables, littéralement incroyables. Alors, il faut bien... Alors là, on est dans la spécificité du poème de l'Arioste. Cet amour, comme le disait Monica Preti-Amar tout à l'heure, le rend fou. Ça n'est pas simplement une passion, c'est une passion qui est destructrice. Un jour, et vous l'avez évoqué aussi en commençant, un jour Roland découvre dans une vallée des arbres qui portent le chiffre entrelacé, les noms entrelacés d'Angélique et de Médor. Médor qui est ce soldat païen, simple soldat, pas un chevalier.
Oui, indigne.
Indigne, sarrasin, bon. Soldat.
Soldat blessé, oui. Et ça n'est pas par vaillance qu'il a fait la conquête du cœur d'Angélique, mais parce qu'elle l'a soigné.
Oui, voilà. Oui. D'où toute cette finesse de l'âme humaine et de la condition humaine dont vous avez parlé,
absolument,
madame, tout à l'heure, qui est contenue dans ce poème, oui, qui a vraiment énormément de facettes. Oui.
Et alors, au vu de ces signes, c'est quelque chose de visuel, et pour nous c'est important quand on fait une exposition de son souvenir, quelque chose de visuel qui provoque la folie d'Orlando, oui, de Roland. À la vue de ce signe, de ce chiffre, finalement, Roland perd la raison, ravage la vallée, enlève son armure et tout nu, comme ça, il dévaste absolument. C'est une scène peu représentée, mais dont on trouve des traces dans la peinture française du
XVIIe. Nous l'avons donc dans cette statue du Seigneur, c'est Roland furieux qui est ligoté par ses compagnons pour qu'il n'accomplisse pas d'autres ravages.
Ah oui, mais en même temps, son cerveau sort de sa tête, n'est-ce pas? Et plus tard, Astolfo va chercher
sa raison. Oui, c'est ça. Alors, il perd tout. Il se souvient plus qu'il a aimé Angélique. Il traverse la Méditerranée à la nage, dans le genre anecdotique, et il reste fou jusqu'à ce que, effectivement, un autre chevalier, Astolphe, c'est quelqu'un qui, pour qui tout est évident, tout va bien, les choses les plus extravagantes, c'est possible. Astolphe va rendre la raison à Roland, tout simplement, parce qu'il va la chercher dans la lune. Dans la lune, c'est l'endroit où s'accumule tout ce qui se perd ici-bas. Et cette raison est contenue dans une fiole, une petite fiole, que Saint Jean l'Évangéliste va remettre à Astolphe. Et Roland redevient à ce moment-là un chevalier chrétien capable d'achever la déroute des Sarrasins. On peut le raconter comme ça. Enfin, c'est une façon. Il y a évidemment la belle façon de le raconter,
c'est de
se confier à l'Arioste.
Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que c'est vraiment pas simple comme exercice de résumer encore d'une manière si brillante ces aventures tellement complexes. Donc après ces récits héroïques et ces amours tourmentés, je propose une courte pause avec un extrait de Handel. Et ensuite, nous allons donc faire une visite de l'exposition, si vous voulez bien.
Thank you.
Monica Preti-Amar et Dominique Cordelier, les deux commissaires de l'exposition L'Arioste au Louvre, nous accompagnent dans notre recherche d'un temps où l'imaginaire régnait sur le monde. Et vous avez choisi le titre imaginaire de L'Arioste, L'Arioste imaginé, qui résume vraiment bien l'inspiration et le retentissement que ce poète de la Renaissance a déclenché jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, on peut suivre maintenant le parcours de l'exposition. Il y a deux salles, un couloir et beaucoup de magie. Et de quelle manière vous avez conçu et réalisé cette exposition, Monica Preti-Amar ? Vous voulez bien ouvrir le bal ?
En effet, il nous a semblé que cette exposition serait plus conforme à l'esprit du Roland, à cet esprit foisonnant et... tout au moins qu'elle puisse rendre compte aussi de certaines des questions que ces poèmes peuvent poser, si nous évoquions conjointement l'imaginaire auquel l'Arioste a puisé et celui qui Sévère a inspiré un retour. Aussi, l'exposition, comme vous l'avez dit, est rythmée en deux salles, l'une consacrée à la Renaissance, l'autre au XIXe siècle. Et nous n'avons par ailleurs pas privilégié les œuvres purement illustratives. L'idée était donc d'évoquer l'imaginaire. Donc dans la première salle, nous avons trois parcours visuels, trois thèmes. D'abord, le couple central du poème, les chevaliers et les dames, nous l'avons vu, et également le thème de l'alta fantasia, cher à l'Arioste. La deuxième salle, donc la salle du XIXe siècle, rassemble autour du thème de Roger et Angélique, l'un des épisodes plus célèbres du Roland Furieux, quelques œuvres que cet épisode a réalisées par des artistes français, Delacroix, Ingres, Barry ou Gustave Doré. Les couloirs présentent quelques-uns des esquisses que le vers de l'Arioste ont inspirées à Fragonard. On connaît un grand nombre de ces esquisses, 180 probablement pour un projet inachevé d'illustration du poème. Les musées du Louvre conservent 8 de ces esquisses qui sont présentées donc à l'exposition et qui trouvent tout naturellement leur place dans cet espace des transitions, car ils font chronologiquement la transition entre la Renaissance et le XIXe siècle. Et aussi pour être en même temps des illustrations fidèles de l'Arioste et des extraordinaires essais d'improvisation créatrice.
Oui, d'ailleurs je rappelle à nos auditeurs que nous avons déjà réalisé une émission avec Marianne Dupuy-Vacher,
qui est la grande spécialiste
de Fragonard
et l'Arioste.
Qui est une fidèle de Canal Académie. Donc elle est venue dans nos studios et nous avons longuement parlé de Fragonard et de son inspiration par Roland Furieux, bien sûr, parce qu'elle a fait aussi un énorme livre.
Qui rassemble d'ailleurs l'ensemble de ses dessins réalisés par Fragonard qui sont dispersés dans différentes collections publiques et privées. D'ailleurs, on peut rappeler aussi que l'autre source d'inspiration de Fragonard est, il faut bien l'évoquer, Cervantes, les Don Quichotte, qui poursuit dans la même veine et je dirais dépasse pour certains aspects les réflexions et je dirais on est avec le Don Quichotte pleinement dans la modernité.
Mais voyons peut-être un peu plus en détail thème après thème, parce que dans la première salle donc consacrée au XVIe siècle, même commençant au XVe avec Pisanello, et qui a le titre « Chevaliers errants », avec donc des œuvres de Pisanello, comme je viens de dire, et qui sont d'une finesse vraiment exceptionnelle et qui mettent la figure du preux chevalier au centre. Et puis il y a des dessins vraiment fantastiques. Vous ne voulez pas nous le décrire un petit peu ?
Oui,
Dominique Cordelier.
La section qui montre le chevalier errant, qui est essentiellement articulée, construite sur des dessins de Pisanello, donc des dessins ou de son atelier, bien sûr, donc des dessins antérieurs à la naissance de l'Arioste. Cette section, elle est là pour rappeler qu'un poète, aussi grand soit-il, n'a pas que des sources littéraires. Il a des sources visuelles, il est habité des images qu'il a fréquentées et qu'il a pu voir ses chevaliers, ce monde chevaleresque, aussi bien dans la chanson de geste ou dans le roman arthurien, que dans des représentations figurées comme celle de Pisanello, que l'on conserve aujourd'hui en partie à Mantoue, au Palazzo Ducale, mais qui existait aussi à Ferrare. Je rappelle que Pisanello, le grand artiste de cour de la première moitié du XVe siècle, qui était vraiment le plus brillant porteur de cet esprit courtois et à la fois très moderne de la période, Pisanello a été actif à Ferrare en 1438. Ce n'est pas un choix de hasard, ce n'est pas une fantaisie de notre part, ou plus exactement, ce n'est pas simplement une fantaisie. C'est aussi, il y a quand même un ancrage historique, on est au bon endroit avec les bonnes images pour nourrir l'imaginaire du bon poète. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit dans les dessins de Pisanello un monde de l'errance, un monde de la cavalcade, un monde du combat, un monde de l'aventure. On voit aussi les codes de l'amour courtois. Et peut-être plus encore, de façon plus intéressante encore, des images du merveilleux. On va voir toute une zoologie fantastique avec par exemple des nefs montés sur des dragons. Alors prosaïquement, ce sont probablement des ramasses couverts pour mettre sur une table de prince.
Ah bon ?
Oui. Mais c'est là pour montrer...
C'est étonnant.
C'est là pour montrer comment on compose avec le réel pour arriver à créer, j'allais dire, un espace imaginaire. Espace imaginaire qui a beaucoup, beaucoup de parenté, de points communs, d'équivalents avec celui de l'Arioste.
Pourquoi j'ai dit étonnant ? Parce que c'est une finesse, c'est un imaginaire absolument fabuleux. Et que ça puisse servir uniquement comme... comment vous avez dit de...
Oui, ramasse couvert probablement.
Une pièce d'orfèvrerie
qu'on pose sur la table comme ça. Et on n'a pas. Bon, c'est un couvert rudimentaire par rapport à celui très sophistiqué des tables de haute gastronomie aujourd'hui. Mais il y a des éléments qu'il faut avoir. Il faut avoir un couteau, il faut avoir éventuellement une fourchette, pas forcément une fourchette d'ailleurs. Et tout ça est dans une espèce de nacelle qui est posée sur la table. Évidemment, c'est un objet de très grand prestige. Ce qui nous intéressait, c'était comment, en fait, Pisanello et l'Arioste construisent par hybridation, en empruntant de ci, de là, des choses qui ont leur vraisemblance, qui ont leur force, qui ont leur puissance, et en les articulant de telle manière que ça vous emporte. Finalement, c'est bien le cas de ce dragon ici, c'est bien le cas de l'hippogriffe dans les récits de... Je dis récits parce qu'après tout, il faut les prendre aussi au pied de la lettre de l'Arioste.
Oui, ce sont des frères d'aspiration et d'imaginaire. Oui,
oui alors... C'est contesté, on ne peut pas dire que ça c'est une chose qui aille de soi. Je suis sûr que dans nos visiteurs et parmi nos visiteurs les plus savants, il y a des gens qui ont un peu de distance avec ça, qui disent mais au fond non, c'est pas là que l'Arioste se nourrit. C'est en partie le même siècle, mais effectivement il s'est écoulé plusieurs décennies entre l'un et l'autre. On a l'impression qu'il y a eu une mutation profonde, radicale. En fait non, je veux dire l'Arioste est nourri dans son imaginaire comme nous pourrions l'être aujourd'hui, je sais pas, par l'impressionnisme par exemple.
Donc nous passons du volet chevaliers errants à une autre partie que vous avez nommée l'Alta Fantasia, qui nous fait découvrir des feuilles étonnantes aussi, qui mettent en lumière surtout des grotesques. C'était la grande mode à l'époque de l'Arioste, suite... Vous voulez peut-être nous raconter ça, Madame Pretiama ?
Et les effets des miroirs du premier vers du poème, les dames, les chevaliers, les armes et les amours, donc ces effets des miroirs, des contrastes, ne sont qu'un faible présage, je dirais, de la complexité du plan de l'ensemble du Roland Fourieux, de ses nombreuses voies narratives. Et les choix narratifs de l'Arioste, je dirais, l'unité dans la diversité, la fantaisie sous contrôle, présentent une étonnante coïncidence avec la mode contemporaine dans les arts visuels des grotesques. Et les grotesques, il faut remonter effectivement aux dernières décennies du XVe siècle, la découverte par des érudits, férous d'archéologie à Rome, des villas souterraines, des villas romaines ensevelies, et la découverte de peintures murales où s'enchevêtrent des motifs figuratifs et des ornements qui déploient librement leur gracieuse symétrie. Ça devient une mode à la Renaissance. Raphaël, le premier, en donnera une interprétation extraordinaire dans les loges du Vatican. Et nous exposons donc toute une série de dessins, copies donc de ces loges du Vatican, d'autres dessins des grotesques, qui, pour montrer cette rassemblance entre cette forme visuelle et la forme littéraire, la construction littéraire de l'Arioste. Une construction du style et une construction aussi du récit. Il faut dire que, comme nous l'avons dit, l'Arioste est l'héritier des chansons chevaleresques, une des formes de style les plus fondamentales de ces récits poétiques est l'entrelacs. C'est-à-dire l'enchevêtrement des différents fils narratifs qui d'ailleurs pouvaient être suspendus à un moment pour être repris plus tard. Donc l'Arioste lui-même suit et porte, je dirais, à sa perfection cette technique de récit avec une maîtrise telle que, en fin de compte, son poème arrive à réunir tous ces fils et à donner un sens de prolifération, de complicité, mais dans une symétrie extraordinaire.
Oui, c'est une technique de la discontinuité pour composer un ensemble.
Oui.
Donc un ensemble qui soit à la fois complet, complexe, découpé en morceaux. Bon, le poème lui-même est découpé en morceaux, hein, oui, avec ce système de huitains, d'octaves, pour le construire. Et si vous voulez, si vous regardez les dessins qui sont dans l'exposition, alors ça peut être des dessins de Ripanda, de Perino del Vaga, de Morto da Feltre, des gens qui sont vraiment des contemporains de l'Arioste, pas forcément par la génération, mais au moins par l'activité, vous avez des dessins qui vont tout d'un coup juxtaposer de manière libre, mais très organisée aussi, des motifs naturalistes, ça peut être un perroquet, des motifs décoratifs, ça peut être une feuille d'acanthe, des motifs fantastiques, et ça sera un griffon, un cheval ailé, des éléments d'architecture, mais fragiles, ce sont des édicules tout à fait gracieux, des éléments héraldiques, on retrouve là aussi ce motif qui conduit vers la personne du prince, bon, ça peut être un nœud cardinaliste par exemple. Vous retrouverez d'autres éléments qui sont le franchement militaire, franchement guerrier, le casque, le trophée. Bon, et tout ça articulé, construit avec un souci du passage de l'héroïque à l'extravagant, des changements de registre, des détours, une espèce de songe de la peinture qui se met en jeu, comme si la construction par entre là, dans le poème de l'Arioste et dans la grotesque, était simplement là pour piéger l'ennui. Et arriver à tenir, à travers des voies narratives multiples, extraordinairement complexes, le lecteur en haleine pour des dénouements qui sont sans arrêt différés.
Et d'ailleurs, avec grande ironie d'un certain vers, l'Arioste lui-même explique cette méthode. Alors, je le lis en italien et je le traduis ensuite en français. « Come raccende il gusto il mutaresca, così mi par che la mia storia, quanto or qua or là più variata sia, meno a chi lui dirà noiosa fia. Comme changer des mers éveille l'appétit, je crois également que plus ma longue histoire est variée, tantôt ici et tantôt là, moins à qui l'entendra, elle offrira d'ennui. Et donc, c'est hors l'alta fantasia, consentir solo non vuol chi segue ognor, quindi mi guida. Donc, c'est la haute fantaisie qui guide la poésie de l'Arioste.
Oui. Fantaisie entendue comme imagination.
Hein. Bien sûr, oui. Et donc, nous quittons avec regret cette alta fantasia et pour passer dans la troisième partie de cette première salle consacré encore à la Renaissance. Donc le troisième volet qui est consacré aux figures de femmes. Un chapitre très important chez l'Arioste.
Oui, qu'on aurait presque pu évoquer en même temps que le chevalier. D'ailleurs, bon, il faut bien voir, sans faire de l'Arioste un féministe acharné, que la femme, sa valeur, sa liberté, occupe tout à fait une place centrale dans le Roland Furieux. Hein. Alors, c'est une femme qui peut être une femme convoitée, une femme poursuivie, une femme captive, une femme ensorcelante, une femme magicienne, une femme vertueuse, une femme belle, dans toutes sortes de facettes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que de toute façon, quelles qu'elles soient ces femmes de l'Arioste, ce sont des femmes qui sont issues du mythe antique, de l'histoire ancienne, de la tradition courtoise et de la culture de cour. Tout ça ensemble, avec une érudition qu'on n'évoque pas vraiment chez l'Arioste, mais qui est tellement maîtrisée qu'on ne s'en aperçoit plus, mais qui est très, très réelle. Alors, on montre des images de femmes de cour. Hein. On a un dessin de Montagna qui montre una duquesa. On a des femmes armées. Vous évoquiez tout à l'heure la figure de Bradamante qui est une sorte d'Amazone. Eh bien, nous avons rappelé, par souci de la source, j'allais dire, la figure de Thalestris, hein, la reine des Amazones, qui est encore au XVIe siècle la figure de référence pour la femme armée, en quelque sorte. La femme armée, qui le poème de l'Arioste peut être Bradamante ou il peut être Marphise, hein, qui sont de véritables chevaliers qui sont des femmes sous l'armure. Et puis, bien sûr, on a montré toute une généalogie de femmes captives qui finissent par dominer leur libérateur. Alors, ça peut être l'Andromède mythique. Si on se tourne du côté de l'Arioste, c'est évidemment du côté de l'Arioste dans Chandis, angélique captive.
Qui est délivrée, oui.
On a trois œuvres qui montrent ça, j'allais dire, exemplairement. D'abord, on a un dessin de Niccolo della Batte qui montre la force de la figure de femme. Avec vraisemblablement, ça n'est pas sûr. Ce qu'il y a de formidable, c'est que ça n'est jamais sûr à 100%. Et que, j'allais dire, il y a toujours un espace pour le lecteur. Hein, entre le poème et le dessin, on n'est jamais sûr à 100%. On n'est jamais dans la littéralité. Ça, c'est la force des grandes œuvres, tout ne s'explique pas, tout ne se démonte pas, il y a toujours une part d'ombre, et c'est absolument essentiel. Le dessin de Niccolò Delabate, Niccolò Delabate est un artiste qui pour nous compte beaucoup, parce que lui a pris le poème à bras-le-corps, il a été un lecteur, il a vraiment été un lecteur et de Boyardot et de l'Arioste.
Il a été appelé à Fontainebleau, probablement par François Ier.
Il est appelé par Henri II, en 1552, mais à ce moment-là, j'allais dire, il a déjà son passé de peintre épique à la façon de l'Arioste derrière lui. Hein.
Absolument. Oui. Et d'ailleurs, derrière lui, et en même temps, on connaît des œuvres, des cycles peints, mais à Bologne, à la Rocca di Scandiano, donc bien en Italie et dans la proximité géographique de Ferrare, donc des cycles peints illustrant l'Arioste. Malheureusement, ces cycles peints sont en partie perdus, mais nous savons donc que Niccolò Delabate s'est imbibé et même a interprété cette œuvre littéraire. Et ces dessins donc, dont parlait Dominique Cordelier ouvrent la série. Nous l'avons intitulée « Scène de chevalerie ». Il pourrait bien montrer une scène du roman du Roland Fourieux.
Alors, si mais on force la lecture, si on peut. Si on force la lecture, parce que c'est toujours pareil, je vous dis cette part d'ombre, mais si on force la lecture, on peut y reconnaître Roger qui arrive au château de la fée Logistile, qui est un épisode du chant 10 de l'Orlando Furioso. Ce qu'il faut retenir, c'est, j'allais dire, le ton, la saveur, l'espèce de. Le climat, en fait, d'une œuvre comme celle-là, qui nous transporte effectivement, alors, non plus dans un Arioste imaginé ou imaginaire, mais dans le cœur même du poème de l'Arioste.
Une atmosphère. On s'y croit absolument. Et en plus, il y a une finesse des traits, un art du dessinateur qui est assez exceptionnel, remarquable.
Parce que la façon dont le chevalier s'éloigne d'une scène de combat, va se rapprocher d'une ville, conduit par cette dame qui a véritablement un allant, un port très, à la fois très
noble.
À la fois très noble et très familier, les deux registres. Et comment, finalement, ces deux figures s'acheminent vers quelque chose dont on ne saurait dire ce que c'est exactement, c'est véritablement dans le ton du poème.
On va essayer cet échange aussi secret de regard entre les deux personnages.
On va essayer peut-être, si on peut, le reproduire sur notre site pour que tous nos auditeurs puissent en même temps le suivre de leur propre regard. Oui, Madame Prêtiamar, vous vouliez ajouter.
Donc, début du parcours de femme, nous avons parlé de ses dessins. Et à la fin, donc, ces femmes victimes, Andromède ou Angélie, et nous terminons avec deux images, encore Niccolò Delabate qui fait écho à celui du début. Et là, c'est Niccolò Delabate qui raconte l'histoire de Persée Andromède, qui est la source certaine, littéraire, mais aussi mythologique, de épisode raconté par Ovide dans les Métamorphoses, donc une autre délivrance par l'héros ici Persée, donc d'Andromède, là aussi délivré à la voracité du monstre marin, et donc source pour l'épisode de Roger Angélique, elle aussi, livrée à la voracité d'un monstre marin et sauvée par Roger chevauchant l'Hippogriffe. Cette figure fantastique, animal fantastique, mi-griffon, mi-cheval, ailé et qui parcourt les espaces de l'Arioste. Et les dessins donc, dont je vous parle est un dessin d'après le Titien, l'original est au musée Bonnat, et c'est un beau dessin d'atelier qui montre cet épisode donc, du Roger délivrant Angélique qui nous conduit à la deuxième salle de l'exposition.
Voilà. Tout droit chez Delacroix, n'est-ce pas ?
Ben non, pas tout droit.
Non, pas tout.
C'est-à-dire que le couloir est droit, mais il n'est pas vide.
Non, mais on avait déjà évoqué Fragonard. Je voulais passer directement, puisque Madame Prêtiamar vient de nous parler de Roger Angélique, des livres Angélique. Évidemment, ça fait tout de suite penser à Delacroix, parce que nous avons déjà évoqué tout à l'heure Fragonard, et en plus, nous avons fait une émission spécifiquement consacrée à Fragonard, inspirée par l'Arioste. Donc, on passe dans la deuxième salle, si vous voulez bien. Au XIXe siècle, chez Ingres, Jean-Dominique Ingres.
Peut-être ça vaudrait la peine d'écouter Dominique sur les Fragonard.
Je ne pensais pas à ça. En vous écoutant, je me disais, mais au fond, est-ce qu'on passe chez Ingres, chez Delacroix, chez Gustave Doré et chez Gustave Moreau, ou est-ce qu'on passe vraiment au cœur de l'histoire de Roger Angélique ? Je pense qu'en fait, on va dans cette salle évoquer deux aspects de l'histoire d'Angélique, de moments très proches d'ailleurs dans le récit de l'histoire d'Angélique, qui sont d'un côté effectivement son exposition, sa captivité, sur le rocher de l'île des Pleurs, où elle est enchaînée au rocher, elle a été prise par des pirates, elle a été exposée à la voracité d'un monstre marin. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement Roger arrive sur cette monture fantastique dont vous venez de parler, l'hippogriffe, hein, mi-cheval, mi-griffon, avec des ailes et des serres d'aigle. Et Roger, donc ce chevalier, extraordinairement vaillant, hein, il n'est pas question une seconde de mettre en doute son courage, sa bravoure, son éclat dans les armes. Eh bien, Roger, par une ironie assez incroyable, va être vainqueur de ce monstre marin et va pouvoir délivrer Angélique, mais pas par sa force, pas par la puissance de sa lame ou par l'impact de sa lance, mais tout simplement parce qu'il va utiliser un bouclier magique dont l'éclat va aveugler le monstre marin. Et là, vous touchez quelque chose qui est au cœur de l'esprit de l'Arioste. Les chevaliers sont incroyablement braves, mais c'est par magie qu'ils triomphent. Il y a quelque chose de plus puissant qu'eux qui les font se mouvoir ou qui les font réussir. Et ce triomphe par magie et non par bravoure, c'est une forme de déconfiture pour le chevalier d'une certaine manière. La déconfiture de Roger ne s'arrêtera pas là, parce que Angélique va lui échapper, elle va réussir à prendre un anneau magique qui permet de la rendre invisible. Et elle va d'abord être délivrée par Roger, et c'est le deuxième aspect de la salle. Il y a cet aspect, je disais, il y avait la captivité, puis il y a de côté, il y a l'envol. C'est-à-dire que les deux vont partir sur l'hippogriffe. Lui va essayer d'abuser d'elle, parce que ces chevaliers sont quand même assez brutaux. Hein. C'est pas, ils sont des modèles de courtoisie jusqu'à un certain point.
Et puis il a un certain mérite, quand même.
Il a un mérite, mais il veut en cueillir les fruits, je veux dire, de façon assez vigoureuse.
Absolument. Et d'ailleurs, on voit bien aussi l'extraordinaire richesse de ce poème et la capacité de Roland Fourieux de passer du registre épique, le moment de la délivrance, de l'héroïsme guerrier, ou de l'héroïsme guerrier, bien sûr, avec cet espoir guerrier magique, et le registre héroïque-comique. Parce qu'il y a effectivement la suite de l'histoire après le désir. Roger essaye d'abuser de la jeune et belle femme toute nue près de lui, mais il ne peut pas, car emprisonné, cette fois par son armure. Il essaie de faire de l'armure, et donc Angélique profite de ce moment d'attente pour s'évaporer dans les airs, par magie encore.
Avec son anneau. Avec
grâce à son anneau qui rend invisible, ça rappelle des thèmes qui ont été réactivés récemment, qui ont un vrai rapport de cousinage avec cette grande...
Oui, c'est comme des contes de fées, quelque part. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, oui.
Alors c'est... Dans la salle, on a les deux moments. Angélique captive et Angélique envolée d'une certaine façon. Alors, avec d'un côté Ingres, évidemment, de l'autre côté Barry, hein, qui fait un groupe sculpté tout à fait extraordinaire, où on voit ce vol de l'hippogriffe avec le couple contradictoire de Roger et d'Angélique. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut essayer de tenter de faire, si vos auditeurs ont la patience de l'écouter, parce que ça ne va pas de soi. Je veux dire, pour comprendre qui est cette Angélique, comment elle traverse le poème, c'est pas évident de reconstituer son histoire, hein, quand on n'en a pas été un lecteur attentif. On a dit au départ que c'était une princesse extrême-orientale, que Roland s'était épris d'elle et l'avait amenée en France, que là, son cousin Renaud en était tombé amoureux. Charlemagne, finalement, s'en empare, la promet au plus valeureux des deux, de ces deux chevaliers, celui qui serait le plus valeureux contre les deux rois africains qu'on a évoqués. Évidemment, Angélique n'aime personne et s'échappe. Elle est poursuivie par les chrétiens, elle est aussi poursuivie par les sarrasins. On pense, je ne sais pas, Sacripan ou Ferragus qui lui court après. Elle est convoitée par un ermite, elle est prise par les pirates, c'est l'épisode que nous venons de raconter, attachée par eux dans l'île des... Alors, dans certaines traductions, on trouve île des plaintes, île des pleurs.
Oui, des pleurs, oui.
Des pleurs, oui. Et elle est délivrée par Roger, ça aussi on l'a évoqué. Roger la veut, elle devient invisible. Elle rentre chez elle, finalement, et en passant par Paris, elle trouve un sarrasin, ce qu'on a évoqué également, ce jeune sarrasin blessé, Médor. Elle le soigne, elle l'aime, ça provoque la folie.
Et c'est la morale de l'histoire.
Ce qui est intéressant, c'est que l'Arioste est une histoire sans morale. Véritablement, le point de vue de l'Arioste n'est pas celui d'un moraliste. L'Orlando Furioso n'est pas un apologue. ni par la longueur, ni par la substance.
Et je dirais que la caractéristique fondamentale de ce poème est l'ironie. Cette ironie qui est une approche au monde désenchantée et en même temps sage. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de jugement. L'Arios ne porte pas de jugement sur le monde. Il le regarde avec une ironie souveraine.
Ça me fait penser à une contribution donc, de Michel Jeanneret que vous avez évoquée, Dominique Cordelier, tout à l'heure, qui est donc le co-auteur avec vous, Madame Prétiama, du catalogue. Et il parle des valeurs du code chevaleresque du Moyen-Âge, qui est enchanté par l'Arioste, alors que l'Italie du temps de l'Arioste est plutôt déchirée par des guerres terribles, par des conflits incessants entre les différentes principautés. Et l'écrivain, enfin, l'Arioste, dénonce même avec véhémence l'invention satanique des armes à feu, parle de la machine infernale qui brûle, abat, déchire et fracasse tout ce qu'elle touche. Et pourtant, l'Arioste rêve d'un temps imaginaire où la vaillance militaire inspirait la vertu. Et c'est encore Michel Jeanneret qui note que l'histoire du Roland s'inscrit dans un monde sans âge où fusionnent plusieurs époques légendaires. Et le poème opère comme une machine à remonter vers un âge d'or où la bravoure et l'amour, que vous avez tellement bien et brillamment évoqué, et la grandeur d'âme et la délicatesse du sentiment qui se conjuguent. Donc j'en arrive à ma question. Est-ce que c'est peut-être là que réside la principale qualité de ce poème épique et héroïque qui a connu un tel succès durant des siècles, Madame Prétiama?
On peut dire qu'il y a ça et toutes les richesses dont nous avons parlé. Et disons-le, pourquoi proposer aujourd'hui l'Arioste ? L'Arioste est une œuvre classique et pour cela intemporelle. Et donc à lire et à relire. Et je dirais, je terminerai sur cette invitation à revenir à ce grand poème classique.
Oui, d'ailleurs, on peut peut-être à ce moment-là signaler l'apparition d'une nouvelle traduction.
C'est la réédition d'une très belle traduction en langue française et en vers d'André Rochon aux belles lettres, une édition qui vient effectivement, le nouveau tirage vient de sortir, donc il est disponible. C'est une édition bilingue et en vers, donc qui garde toute la musicalité, la richesse de cette langue extraordinaire,
qui est donc disponible dans toutes les bonnes librairies, particulièrement au Louvre, bien sûr. Oui, bah, écoutez, je vous remercie infiniment, Madame Prétiama et Dominique Cordelier, de nous avoir guidés à travers ces méandres de cet univers fantastique de l'imaginaire de l'Arioste et de l'Arioste imaginé. Je rappelle à nos auditeurs que cette exposition se tient au musée du Louvre encore jusqu'au 18 mai 2009 et à cette occasion est paru donc ce très beau catalogue par Monica Prétiama et Michel Jeanneret aux éditions Louvre Gourcuff Gradenigo en 2009. Merci infiniment
à tous les
deux. Au revoir.